l'existence d'un esprit conscient et intelligent. Il a conclu en disant tout simplement « Cet esprit est la matrice de toute chose. » Y référant par d'autres termes comme « le champ de l'unité », des études contemporaines ont démontré que la matrice de Planck est de fait dotée d'intelligence. Tout comme les anciens l'ont suggéré, le champ réagit à l'émotion humaine. Indépendamment du nom que nous lui attribuons ou de la façon dont la science et la religion le définissent, il est évident qu'il existe quelque chose, une force, un champ, une présence, qui agit comme un grand aimant qui nous attire constamment les uns vers les autres et nous rattache à une puissance supérieure. Connaissant l'existence d'une telle force, il nous paraît tout à fait logique de pouvoir communiquer avec elle de façon significative et utile dans notre vie. En fin de compte, nous découvrirons peut-être que le même pouvoir qui guérit nos plus profondes souffrances et crée la paix entre les nations détient la clé de notre survie comme espèce. On croit que le recensement réalisé à l'échelle mondiale en l'an 2000 constitue de mémoire d'homme la comptabilisation la plus exacte de l'histoire de notre monde. Parmi les statistiques incontestables que l'enquête a révélées sur notre famille mondiale, plus de 95% de la population croit en l'existence d'une force supérieure. De ce nombre, plus de la moitié désigne cette puissance par le nom de Dieu. La question à se poser maintenant, c'est moins de savoir si ce quelque chose existe, mais ce qu'il signifie dans notre vie. Comment pouvons-nous parler à la puissance supérieure en laquelle tant d'entre nous croyons? Les mêmes traditions qui décrivaient les secrets de la nature il y a des milliers d'années ont aussi répondu à cette question. Comme vous pouvez le deviner, on retrouve le langage qui nous rattache à Dieu dans une expérience très commune que nous partageons tous. C'est l'expérience de nos sentiments et de nos émotions. Lorsque nous mettons l'accent sur une certaine qualité de sentiment dans nos cœurs, nous utilisons en fait le mode de prière en grande partie oublié. La clé pour utiliser notre sentiment comme langage de prière est simplement de comprendre comment fonctionne la prière. Dans les sanctuaires les plus éloignés et les plus isolés encore sur Terre aujourd'hui, ceux que la civilisation moderne a le moins perturbés, nous découvrons quelques-uns des exemples les mieux préservés de notre mode de communication avec cette présence en laquelle croient 95% d'entre nous. Prier, c'est ressentir. J'avais invité 20 personnes à se joindre à moi dans un voyage qui nous avait menés à mi-chemin autour du monde. Ce jour-là, nous nous sommes retrouvés dans les lieux de connaissance les plus éloignés, les plus isolés, les plus magnifiques et les plus sacrés qui restent encore sur Terre, les monastères du plateau tibétain. Pendant 14 jours, nous avions acclimaté nos corps à des altitudes de plus de 5000 mètres. Nous avons traversé une rivière glacée dans des pirogues de bois taillées à la main. Armés de courage, nous avons été conduits pendant des heures au-dessus de ponts délavés et à travers des déserts sans route. Nous avons été secoués de tous côtés, tout cela simplement pour finir par nous retrouver à cet endroit, à ce moment précis. Je songeais, aujourd'hui, il n'est pas question d'être au chaud. Aujourd'hui, c'est une journée de réponse. Je me suis concentré en regardant directement dans les yeux l'homme superbe et sans âge assis en position de lotus devant moi, l'abbé du monastère. Avec l'aide de notre traducteur, je venais de lui poser la même question que j'avais posée à chaque moine et à chaque religieuse que nous avions rencontrée pendant notre pèlerinage. « Quand nous vous voyons en train de prier, ai-je commencé, que faites-vous? Quand nous vous voyons vous harmoniser et chanter pendant 14 à 16 heures par jour, quand nous voyons de l'extérieur les cloches, les tambours, les gonds, les carillons, les gestes,